Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Quelques jours de répit dans un calendrier submergé par les récits de guerre, c'est la trêve des confiseurs censée s'imposer à tous entre Noël et le jour de l'an. Dans un article que le journal Le Point consacrait l'an dernier à cette tradition, on apprenait qu'il fallait remonter aux alentours de l'an 1000 pour en trouver les premières traces. Ce fut ensuite Louis IX qui décida d'imposer aux seigneurs de ne plus combattre pendant les fêtes religieuses, jusqu'à ce que cette trêve s'inscrive dans le calendrier républicain en 1875 pour suspendre une autre forme de combat, le combat politique. Alors l'avenir proche nous dira ce qu'il est advenu de cette parenthèse en cette fin d'année 2016. Au mieux, les armes se seront tues pendant quelques jours. Une trêve, on peut encore y croire. La paix, en revanche, n'est pas pour demain. Et elle l'est d'autant moins que ce qui la distingue de la guerre est devenu de plus en plus confus avec la généralisation de la menace terroriste. La paix n'est pas pour demain, mais l'a-t-elle jamais été pour hier? C'est faire le choix de l'évidence que de rappeler que l'histoire des hommes se raconte au fil des conflits armés qui les ont opposés, comme si la guerre et la violence étaient inscrits dans le mode de fonctionnement de l'humanité. Alors pourquoi n'aimons-nous pas la paix? Eh bien c'est la discussion que nous avons enregistré le 14 décembre dernier, que nous allons mener en compagnie de deux invités qui ont pour point commun notamment de ne pas se laisser enfermer dans une seule discipline. C'est votre cas, en tout cas Jean-Claude Carrière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scénariste, dramaturge, écrivain, c'est de cette manière que vous vous présentez sur la quatrième de couverture du dernier ouvrage publié chez Odile Jacob et qui s'intitule justement La paix. On aurait pu rajouter tout un tas d'autres choses à votre carrière qui vous vaut de prestigieuses récompenses comme un Oscar d'honneur ou plus récemment comme le prix de l'Académie européenne du cinéma que vous êtes allé recevoir il y a quelques jours de cela en Pologne.
À Wrocław.
Et pour discuter avec vous, un autre dramaturge et écrivain, il s'agit de David Van Reybrouck. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes par ailleurs historien. Enfin, par ailleurs historien, j'aurais pu d'ailleurs en faire un autre point commun avec Jean-Claude Carrière, puisque je crois que vous avez une formation d'historien. Historien avec...
Moi, je suis plutôt préhistorien de formation. Je suis archéologue de formation, mais j'ai travaillé beaucoup sur l'histoire.
Et la préhistoire nous permettra peut-être justement d'examiner si, en ces temps beaucoup plus anciens, la paix avait une autre valeur qu'elle ne peut en avoir aujourd'hui. David Van Reybrouck, on vous a surtout découvert avec votre histoire du Congo, publié chez Actes Sud en 2012, qui vous avait aussi évalué un certain nombre de prix. Et puis vous venez de publier, en compagnie du psychothérapeute Thomas d'Azimbourg, « La paix, ça s'apprend, guérir de la violence et du terrorisme », c'est toujours chez Actes Sud. Alors l'un et l'autre, vous avez donc décidé de vous intéresser à la paix. Jean-Claude Carrière, pourquoi avoir choisi ce thème-là plutôt que le thème de la guerre, qui est a priori un thème beaucoup plus riche pour écrire quelque
c'est
chose?
C'est précisément la raison. C'est parce qu'on n'écrit jamais sur la paix comme s'il n'y avait rien à en dire, tandis que les ouvrages sur la guerre fleurissent de tous côtés. Et non seulement des ouvrages sur la guerre, mais les éloges de la guerre. C'est, il y a deux chapitres dans mon livre où j'ai rassemblé des textes d'auteurs parfois très connus, de Joseph de Maistre à Maurice Barrès à Proudhon, qui ont chanté l'aspect sublime de la guerre, l'aspect divin de la guerre, d'une manière presque incroyable. Comme si la guerre était la plus belle, la plus souhaitable des activités humaines, et comme si mourir à la guerre était le sort le plus beau. Il est même le plus digne d'envie, disait-on.
Peut-être aussi parce que la guerre est plus facile à raconter que la paix. Raconter, par exemple, une histoire de la paix, oui. Ça pourrait ressembler en quoi, une histoire de la paix? C'est compliqué?
Bien, justement, c'est ce que je me suis dit avant de commencer ce livre. Je n'aurais rien à dire. Et en cherchant différentes sortes de paix, comment des paix ont été signées, comment elles ont été violées, etc. Je me suis rendu compte que c'est très très riche l'histoire de la paix. Si on remonte à la paix romaine, et si on va de la paix romaine à la paix des braves, que j'ai vécu personnellement en Algérie, en passant par toute une série de traités de paix violés, de trêves, comme celle des confiseurs, une trêve est faite pour être rompue, à un moment donné. Il y avait autrefois des trêves le jour de l'anniversaire du roi, par exemple. Alors, je me suis rendu compte que le sujet était beaucoup plus vaste que ce que j'imaginais. Mais je ne l'ai pas traité d'une manière systématique, premièrement, deuxièmement, troisièmement. J'ai préféré faire une trentaine de chapitres intéressants, chacun un aspect de telle ou telle paix, et en espérant que l'ensemble forme un cocktail, vous voyez, un cocktail réussi.
Un cocktail est peut-être une définition de ce qu'est la paix, on va y venir. David de Van Reybrouck, vous, ça n'est pas tellement un historien que vous avez abordé cette question de la paix, mais est-ce que vous partageriez le même point de vue que Jean-Claude Carrière pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, si on veut trouver des ouvrages sur la guerre, sur l'histoire de la guerre, c'est assez aisé, la paix se fait beaucoup plus rare.
Oui, tout à fait. Et effectivement, nous, en tant qu'auteurs de notre essai, Thomas Dansembourg et moi, nous sommes tous les deux belges, lui francophone, moi flamand. On s'est dit, mais enfin, la guerre, on sait s'y faire. Et de la paix, on a toujours une certaine difficulté à en parler. Même un certain gêne. Moi, je l'ai fait, c'est la première fois que j'ai écrit un livre en français. J'ai écrit une partie en néerlandais qui a été traduite, mais la grosse partie que j'ai écrite, je l'ai fait en français. Pour moi, c'était plus facile à parler de la paix en français qu'en néerlandais. Je trouve ça presque le mot vrede, ce qui est la traduction, en néerlandais, c'est presque gênant. C'est un mot qu'on n'utilise plus. On préfère le remplacer par le mot peace. On parle de peacekeeping et peace enforcement. Ça fait technique. Mais parler de la paix de nos jours, ça a toujours un
ça
risque
d'être... Ça fait un peu bébête, non? Ça fait un peu foutez-moi la paix.
Oui, foutez-moi la paix. Ou bien il y a un côté naïf, un côté un peu bisounours, comme on dit.
Oui.
Et je vous dis, mais c'est étonnant, quand on regarde les textes fondateurs de l'Union européenne, quand on regarde les textes fondateurs qui ont été écrits après la Révolution française, le mot « paix » est le mot le plus crucial qui revient à tout temps. Et on a un peu perdu la beauté de ce mot-là.
Peut-être qu'on est aussi un peu gêné, parce qu'on ne sait pas très bien, aujourd'hui, peut-être davantage encore qu'hier, définir ce qu'est la paix, si ce n'est une période qui se situe entre deux guerres,
Jean-Claude Carrière. On le définit d'une manière toujours négative.
Oui.
C'est l'absence de guerre, la paix. Mais la paix en soi, est-ce que c'est un état naturel? On dit c'est le souverain bien. Vivre en paix, c'est le rêve de tous les hommes. Et je crois que c'est vrai. Et pourtant, on n'arrive pas à dire très précisément ce que c'est. Parce que, pour moi qui suis un auteur dramatique, si la paix régnait dans tous les domaines, y compris la paix des ménages, la paix des couples, ouais, il n'y aurait plus de travail. Il n'y aurait plus de tragédie, il n'y aurait plus de roman, tout est à la base, depuis Aristote, nous le savons, de conflits, d'hostilité. S'il n'y avait pas, entre les êtres humains, des oppositions sur tel ou tel thème, dans tel ou tel domaine, il n'y aurait pas de littérature, il n'y aurait pas de peinture. Donc c'est très intéressant de voir que cette définition négative, en réalité, conduit à des délires, quelquefois, de louanges au sujet de la paix.
Et c'est une définition qui est peut-être d'autant plus difficile à trouver aujourd'hui, que les périodes de paix et de guerre se confondent un peu. Vos ouvrages respectifs ont pour point de départ les attentats qui ont frappé la France et la Belgique en 2015. David Van Reybrouck, est-ce que vous diriez que avec cette montée du terrorisme, avec cette montée d'une menace qui semble assez constante, on a de plus en plus de difficultés justement à dire ce que c'est que la paix?
Ben oui. Avec la paix, c'est un peu comme avec la santé. J'ai une fois entendu la meilleure description de la santé que je connais qui disait « La santé, c'est le souvenir d'un malade. » On ne se rend pas compte d'être en santé quand on l'est. Et c'est un peu pareil avec la paix. C'est un peu banal, c'est trivial, c'est peut-être même un peu ennuyeux parfois, mais on pourrait dire que la paix, c'est le souvenir d'un victime, c'est le souvenir de quelqu'un qui est en guerre. Et je pense les souffrances qu'on vient de connaître en Belgique et en France avec les attentats, d'ailleurs il y a eu beaucoup plus d'attentats, moi j'étais au mois de janvier, j'étais à Jakarta en Indonésie, à 400 mètres d'un attentat, j'étais très très proche, et c'est vrai que ces sensations rappellent tout d'un coup la fragilité de la paix, aussi bien que le besoin d'en parler, le besoin de nourrir, de cultiver la paix. La paix n'est pas un état, c'est un procès. Et nous avons un peu oublié comment faire la paix.
Alors la paix, ça s'entretient, et ça s'entretient notamment peut-être en valorisant des exemples de paix. C'est ce à quoi s'emploie chaque année le prix Nobel de la paix, dont le dernier a été décerné au président colombien.
Le président colombien Juan Manuel Santos a reçu à Oslo le prix Nobel de la paix pour ses efforts visant à mettre fin à un demi-siècle de conflit avec les FARC. Il aura fallu plus de 4 ans de négociations difficiles pour que Bogota et la guérilla marxiste parviennent à un accord de paix, d'abord rejeté par référendum, puis finalement adopté par le Congrès colombien après des modifications au texte. Pour le président Santos, cet accord doit envoyer un message au monde entier.
L'accord de paix colombien est une lueur d'espoir dans un monde perturbé par tant de conflits et tant d'intolérance. Il prouve que ce qui, au premier abord, semble impossible peut, avec de la persévérance, devenir possible même en Syrie, au Yémen ou au Soudan du Sud.
Voilà le président colombien Juan Manuel Santos qui recevait son prix Nobel de la paix le 10 décembre dernier. Jean-Claude Carrière.
Il y a un autre exemple. Oui. C'est moi, de ma génération, j'ai pendant longtemps entendu dire que toute paix était impossible en Irlande entre catholiques et protestants. Or, cette paix, un jour, s'est établie et apparemment, elle dure depuis déjà plusieurs décennies entre protestants et catholiques. Si vous allez à Dublin aujourd'hui, c'est une ville tout à fait apaisée. Donc, quand on dit le conflit entre Palestiniens et Israéliens est insoluble, non. Certainement, il y a une solution. Il y a une possibilité pour les hommes de vivre ensemble. Hitler disait, en parlant du peuple allemand, l'Allemagne a besoin d'une bonne guerre tous les 12 ou 15 ans. Or, l'Allemagne est en paix depuis 70 ans, elle ne s'en porte pas plus mal, au contraire. Donc, la paix n'est pas du tout quelque chose d'impossible à atteindre. Et même à l'intérieur de la paix, c'est là que les arts se développent le plus, que la culture trouve sa place, que les imaginations les plus se libèrent. C'est pas dans la guerre qui, au contraire, impose toujours une manière de penser partisane, locale, nationaliste, qui détruit toute autre forme d'imagination.
Est-ce que ça veut dire qu'il peut exister des modèles et des modes d'emploi pour la paix? Et si oui, pourquoi est-ce que ça semble aussi compliqué de les dupliquer?
Les modèles de la paix existent. Le plus célèbre a été la paix romaine, qui a duré pendant près de 4 siècles. Et j'en parle assez longuement, après avoir commencé par Eschyle et évidemment le texte fameux de Darius. Mais la paix romaine était l'empereur, dont, qui est un de mes héros favoris, qui est très très peu connu, Antonin le Pieux, qui a régné 25 ans au 2e siècle de notre ère, à l'apogée de l'Empire romain, n'a pas connu une seule révolte dans un empire qui allait de l'Écosse à la Jordanie. Pourquoi ? On s'est posé beaucoup de questions, déjà Montesquieu se posait la question. L'Empire romain, à cette époque-là, accepte toutes les religions, toutes les croyances, toutes les manières de vivre, vestimentaires, alimentaires, tout à condition de respecter les lois de Rome. Il y a même à Rome un temple aux dieux inconnus. Si quelques dieux passent par là, ils sont les bienvenus, ils peuvent s'installer, ils ont une crèche. On a...
C'est magnifique.
Le jour où, un siècle et demi plus tard, l'empereur Théodose va édicter que toute la population qui constitue l'Empire romain doivent être chrétiennes, absolument sous peine de mort, quelques décennies plus tard, l'Empire romain est disloqué et disparaît.
Alors on en vient justement à la façon dont la paix peut servir de modèle et peut parfois justement provoquer l'inverse de ce qui est recherché. David Van Reybroek, j'ai vu que vous veniez de créer une nouvelle pièce en néerlandais, oui. Je crois pour l'instant, qui s'appelle Para et qui donne la parole à un parachutiste belge qui a participé à une opération dont on se souvient sans doute, même si c'est de manière un petit peu imprécise. C'était l'opération Restore Hope en Somalie, première intervention militaire humanitaire au nom, oui, du droit d'ingérence, qui visait là aussi à instaurer la paix. Instaurer, oui. Il ne suffit pas de vouloir instaurer la paix. Pour que la paix arrive, il faut quoi ? Que la paix soit partagée par le plus grand nombre, si ce n'est par la totalité ?
Ben, c'est effectivement le cas. La guerre de 92-93, 92-93, c'est à peu près la même chose en France. C'était la plus grande intervention militaire belge en Afrique depuis toujours. Et on n'en parle jamais en Belgique. Et il y a eu 3000 soldats belges, des paracommandos belges qui ont été envoyés et qui n'en parlent jamais parce qu'ils ont honte, ils sont frustrés, faute de méconnaissance, faute de reconnaissance qu'ils ont fait eux-mêmes aussi des atrocités. Et là, au lieu d'installer la paix en Somalie, on voit plutôt que 3000 gens sont rentrés en Belgique avec une guerre interne dans la tête. Et ce matin encore, j'ai reçu un message d'un militaire qui avait participé à la campagne pour me remercier, pour lui dire, voilà, pour la première fois, j'ai l'impression qu'une tension que j'avais en tête a pu se libérer. Et je pense que quand on parle de la paix, ce n'est pas forcément qu'on évite les conflits. Être en paix ou vivre dans une société qui est en paix n'est pas forcément une société sans conflit. Il me semble essentiel que une société en paix, c'est une société qui regarde, qui prend au sérieux ses conflits et qui fait tout pour résoudre les conflits ou pourra...
Et qu'il les raconte aussi. Hein.
Et qu'il les raconte.
N'oubliez pas les auteurs dramatiques.
Voilà, qu'il les raconte, voilà. C'est deux collègues qui se parlent. Mais ce n'est pas une question de vivre sans conflit, c'est une question de vivre ces conflits avant qu'ils ne deviennent des guerres ou des hostilités. Et c'est souvent une mauvaise conception de la paix, je pense. Ah, il y a des gens qui disent, moi, j'aime pas les conflits, alors je les évite. Ah non, pour vivre en paix, il faut affronter ces conflits, mais de façon non violente.
Dans votre livre, Jean-Claude Carrière, vous rappelez cette fameuse phrase qui est devenue d'une grande banalité. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et je trouve que vous faites une contre-proposition qui paraît assez évidente.
Si tu veux la paix, prépare la paix.
Oui, ah ben c'était notre titre à l'origine de notre livre. On l'a changé en dernier jour, mais c'est exactement. Si tu veux la paix, prépare la. Voilà, ouais, exactement. Oui,
mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si tu veux la paix, prépare la paix. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une façon d'imaginer ce que doit être la paix?
Oui, ça veut dire d'abord que la paix est toujours menacée. Cette menace est constamment au-dessus de nos têtes. Il y a quelque chose en nous, probablement, les philosophes en discutent depuis longtemps, qui de temps en temps est plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes, nous pousse à des conflits, à des oppositions pour tel ou tel intérêt, pour telle ou telle raison. Et dans le livre « La paix, ça s'apprend », ce qui est très intéressant, c'est de voir que le point de départ de ce livre est tout à fait bouddhiste. Mmh. C'est-à-dire, ça consiste à dire que, comme le Bouddha l'a dit et pas mal d'autres à sa suite, vous savez que j'ai travaillé avec le Dalai Lama longtemps, non, c'est que si moi-même, à l'intérieur de moi-même, je ne suis pas en paix avec moi-même, il est inutile que j'essaie d'établir une paix à l'extérieur de moi. Voilà. Regardez par exemple les images que nous voyons souvent d'Hitler parlant à la radio dans les années 37-38. Il ne parle que de la paix. Il dit que si l'Allemagne veut la paix par-dessus tout, tous ses discours se terminent. Mais il le fait avec une telle hystérie, une telle furie dans les mots qu'il est absolument impossible de croire que cet homme est en paix avec lui-même. Mmh. Vous voyez ce que c'est impossible. Donc si on ne commence pas par apprendre, en effet, à calmer en soi, d'abord à déceler en soi son désir de querelle, son désir de rivalité, d'abord le déceler, oui, et ensuite à le calmer aussi tôt que possible dans la vie, inutile d'essayer d'établir des paix entre les nations.
Alors c'est justement l'objet de votre livre, David Van Reybroek, La paix, ça s'apprend, livre dans lequel vous expliquez que finalement cet apprentissage de la paix, c'est quelque chose qui est totalement négligé aujourd'hui en termes de politique publique, alors que c'est quelque chose qui devrait être enseigné parce que vous avez, on va dire, des preuves de l'efficacité d'un enseignement à la paix sur justement une forme de pacification de la société.
Ben oui, on le voit de plus en plus. Il y a nombreuses preuves qui montrent que essayer, s'entraîner à respirer calmement, à la contemplation, peuvent provoquer des comportements complètement différents. Il y a des écoles aux États-Unis où on a remplacé les punitions classiques par des exercices de respiration, et on voit que les élèves non seulement se comportent de façon beaucoup plus sociale, mais ont même des meilleures notes dans leurs examens. Et en fait, ce ne sont pas des anecdotes, il y a eu de nombreuses preuves qui montrent qu'effectivement, pratiquer la pleine conscience, la non-violence, l'empathie, ça peut se faire avec des effets fort intéressants.
Vous prenez même l'exemple d'une expérimentation, enfin je sais pas si c'est le terme qui convient, mais qui a été menée au sein du Parlement britannique, oui, où il y a des parlementaires alors qui ont essayé justement ces méthodes, et qui ensuite en ont tiré des recommandations.
Ben, plus que ça, le Parlement britannique est allé assez loin, d'abord en installant des cours de pleine conscience pour les parlementaires, et depuis quelques années, il y a des centaines qui l'ont pratiqué, mais il y a plusieurs membres de plusieurs partis politiques, de tous les partis politiques, ont fait une année des consultations et des excursions à travers le pays pour voir quelles sont les connaissances que notre pays, que nous avons déjà. Ils ont publié un rapport il y a un an qui s'appelle Mindful UK, donc Royaume en paix, on va dire, où on a proposé très concrètement de changer au niveau de la loi britannique et d'instaurer, de rendre possible la pleine conscience dans les écoles, dans les entreprises, dans la prison même et dans les soins. Parce que là, ils se sont convaincus. Je trouve quelque chose bizarre. Dès qu'on parle de la méditation, de la contemplation, de la pleine conscience, de l'empathie, c'est comme on se limite quelque part dans les rayons de développement personnel chez nos libraires. Et on a vraiment scindé en deux la paix personnelle de la paix politique. La paix politique, on le trouve dans les rayons Deuxième Guerre mondiale, plus ou moins. Et puis, il y a le développement personnel. Et je trouve que c'est bizarre. On a tant de preuves qui montrent qu'il y a des exercices et des techniques qui aident à pacifier les individus et forcément des sociétés. Et on les applique à peine. Et on a vu le rapport entre le mouvement d'hygiène il y a 100 ans. Il s'agit de mouvements d'hygiène mentale.
Oui, vous dites à l'époque, se laver les mains, c'était pas du tout évident. Et puis, il y a quand même eu quelques politiques qui ont pris des décisions fortes pour imposer ces notions d'hygiène. Et aujourd'hui, ça nous semble tout à fait naturel. Il faudrait faire pareil pour la paix.
Exactement.
Je voudrais rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit et qui est très, très juste. C'est qu'il y a des écoles de guerre. On apprend à se battre, on apprend à tuer partout dans le monde. Ouais. Et ces écoles sont subventionnées. Pensez à Saint-Cyr, pensez à West Point, etc. On apprend comment tuer ses semblables. Et il y a même des textes que je cite dans mon livre, incroyables du 19e siècle, où il dit que ce qui est important, c'est de tuer. Comment tuer et dans quel esprit tuer ? Dans un esprit de haine.
Mon co-auteur, Thomas d'Ansembourg, de formation, il a été paracommando. Il a été une formation fortement militaire. Il dit 14 mois pour apprendre à tuer et apprendre aussi de voir la flexibilité d'un corps humain, une condition physique incroyable. Il disait, mais imaginons que j'aurais eu quelques mois de formation à la paix. Ouais. Les enfants, les jeunes, on les entraîne à la compétition, mais pas forcément à la paix. Quand on voit, il y a 100 ans, on trouvait complètement bizarre d'introduire le gymnastique dans le curriculum scolaire. Alors qu'on disait, oh, les enfants bougeaient, ben non, qu'ils jouent un peu de piano, ça va suffire. Alors que là, les recherches scientifiques de l'époque ont montré que c'était effectivement très important pour un enfant de bouger. Le gymnastique a été installé dans le curriculum scolaire. Je pense que nous arrivons à une époque très semblable maintenant, où on doit prendre très au sérieux les résultats scientifiques et les mettre en pratique dans nos écoles.
D'ailleurs, dans votre livre La paix, Jean-Claude Carrière, vous ne négligez pas non plus cette question de la paix intérieure.
Bien sûr, elle est essentielle. Comme la paix chez soi, comme la paix des ménages, enfin comme il n'y a pas que la paix entre les peuples, il y a mille sortes de paix, plusieurs étages dans la paix, mais elle commence en effet à l'intérieur de soi-même, ça c'est à peu près certain. Dans les écoles de guerre, on apprend à tuer parce que une déclaration de guerre fait que nous sommes ici trois ou quatre autour de cette table. Vous êtes belge, je suis français. Si tout à coup, un de nos gouvernements décide que nous sommes ennemis, je vais être dans l'obligation de vous tuer. Mmh. Et si je ne vous tue pas, c'est moi qui risque d'être tué comme déserteur. Non, oui. C'est des gens qui vivent, moi j'ai connu ça, je suis le seul à avoir connu la Deuxième Guerre mondiale à cause de mon âge, mais j'ai vu mon oncle un jour partir à la guerre, tout à coup, en me disant, je vais être obligé de tuer des Allemands que je ne connais pas, c'est quelque chose de terrifiant. On vous donne l'autorisation de tuer au nom de valeurs qu'on appelle l'héroïsme, par exemple, la bravoure, le courage, tous ces mots dont on a abusé tout au long des temps, et dont je cite dans le livre des textes presque incroyables. La beauté du sang qui coule au grand soleil. Il y a des gens qui ont écrit ça. Ibsen a dit que la guerre était une saignée heureuse. Maurice Barrès a dit que les poilus qui vivaient dans des conditions absolument misérables dans les tranchées allaient regretter ces tranchées si la paix arrivait. En rentrant chez eux, ils seraient nostalgiques.
Terrible.
Il y a même quelqu'un qui a osé dire, je ne sais pas comment il a calculé, qu'en temps de paix, la mortalité est plus élevée qu'en temps de guerre. Oui, on a dit ça. Donc, il y a une espèce de folie de la guerre de la violence, du désir de tuer, qui s'empare même des mots que l'on emploie, même des livres que l'on écrit.
Et donc vous, David Van Riebroek, vous dites que si on commence par un travail intérieur, et ce dès la plus petite enfance, que c'est un travail qui est organisé par les pouvoirs publics, on peut aller vers une forme de pacification de la société. Moi, il y a juste quand même un petit problème que me pose cette approche a priori. Est-ce que ça ne revient pas à dire finalement que faire la paix avec soi-même, c'est aussi une façon d'accepter le monde dans lequel on vit, et que si on est dans un monde, par exemple, où il y a du chômage, où il y a des difficultés qui sont des difficultés sociales, on va vous aider avec justement des méthodes de développement personnel à accepter la situation dans laquelle vous êtes, mais la société, elle, ne va absolument pas changer. C'est quand même un risque, non ?
Il faut être bouddhiste et marxiste à la fois. Il faut lutter pour la paix intérieure, il faut lutter pour la justice sociale, et l'un n'empêche pas l'autre.
Et c'est une lutte constante. Si on pratique régulièrement la méditation, on voit que ce qu'on a fait la veille, il faut le refaire constamment. C'est la seule manière. Peut-être vous espériez, en nous invitant tous les deux, que nous allions revenir aux mains, David et moi, et que cette discussion sur la paix se terminerait par un pugilat. Ce serait le rêve pour vous. Eh ben non, je crois que nous allons terminer paisiblement.
Vous allez faire passer pour quelqu'un qui ne cherche que le conflit, alors que c'est évidemment pas du tout ça. Et c'est d'ailleurs, on peut le
mais
dire quand
a,
même.
Mais il n'y a pas de bonne discussion sans un conflit.
Bien sûr.
Et naturellement, il n'y a pas de bonne tragédie, de bon roman. Que serait Shakespeare s'il n'avait écrit que des choses sur la paix?
Mais on peut dire qu'on pourrait laisser justement les conflits et les guerres à la fiction, et que dans la réalité, ce à quoi quand même aspire la majorité, on va dire, de l'humanité, même s'il y a des exceptions. Voilà, c'est quand même la paix.
C'est parce que nous allons au théâtre pour nous purifier. Ben oui. De notre violence intérieure, à condition, on oublie toujours cette partie de la phrase d'Aristote, que les sentiments exprimés soient élevés. Ça, c'est très important.
D'autant plus qu'on voit chez les politiques qui donnent vraiment d'inspiration, tels les Václav Havel ou les Nelson Mandela, là on voit, et on les cite d'ailleurs dans notre ouvrage, à quel point leur contemplation quotidienne les a servis à faire le travail pour une meilleure justice sociale dans leur pays.
C'était même Mandela faisant l'éloge de l'emprisonnement. Et de ce que la prison
lui a permis.
De devenir. Énorme, oui.
Voilà. Si on faisait un sondage à l'échelle mondiale pour savoir si l'on préfère la paix ou la guerre, on peut imaginer, sans prendre énormément de risques, malgré les contre-exemples que vous avez cités tout à l'heure, Jean-Claude Carrière, c'est la paix qui dominerait très largement dans les résultats. On aspire à la paix. Oui. On a même manifesté pour la paix contre la guerre. Ça n'était pas si vieux que ça. Oui. C'était la dernière fois, en tout cas, où ça a été fait de manière massive en Europe, en 2003, juste avant l'intervention américaine en Irak.
Elle est à toi, chanson, déguisement, slogan, tout est bon pour dire non à une guerre en Irak, même si elle risque d'éclater dans les prochains jours, les manifestants le savent. Pour autant, pas question de baisser les bras.
C'est sûr que oui, la guerre va être là quand même, mais nous on est là quand même aussi, c'est surtout ça quoi. Pour aider cette humanité qui fout le camp quoi.
Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour dire non, et je pense que c'est toujours avant le début de la guerre réellement qu'il faut déjà commencer à se mobiliser. Le soulèvement de l'opinion publique fera que même si cette guerre est déclenchée, on pourra à un moment l'arrêter.
Voilà, c'était le 15 mars 2003, la quatrième journée de mobilisation en France contre la guerre en Irak, donc d'une certaine manière pour la paix. David Van Reybroek, on a manifesté pour la paix en 2003, la guerre a quand même eu lieu. Est-ce que ce serait une des raisons qui expliquerait qu'aujourd'hui, par exemple, on ne manifeste pas contre la guerre en Syrie? Pourquoi est-ce qu'on ne manifeste pas contre la guerre et pour la paix aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que l'idéal de la paix s'est perdu?
Moi, j'étais là en 2003, je me souviens, j'ai fait la manifestation à Bruxelles, et je me souviens, c'était la première fois de ma vie qu'il y avait des manifestations dans des dizaines de villes à travers la planète. Il y avait vraiment une mobilisation planétaire contre cette stupidité qui a été l'invasion, la deuxième guerre d'Irak.
Les deux d'ailleurs,
vous en parlez dans votre livre d'ailleurs.
Oui. Et voilà, un mensonge après l'autre.
La guerre syrienne en résulte en quelque sorte. Le Daesh est le produit de l'invasion américaine en Irak. Et donc on voit, je pense pas que les gens ont moins de soif et moins d'envie de paix de nos jours qu'à l'époque. Je pense que là, c'était aussi, il y avait en dramaturgie, c'était une guerre qui s'était annoncée, et on voulait arrêter ce moment moteur où la guerre allait déclencher, alors que la guerre en Syrie, elle est là depuis 4-5 ans, depuis le fameux printemps arabe. Et donc il y a eu une certaine fatigue, une certaine lassitude. Malheureusement, de nos jours, les gens se sont mis debout avec les attaques sur Alep, mais c'est vrai que c'est pas le même engouement ou le même mobilisation, malheureusement.
Il y a une forme de résignation face à la guerre, Jean-Claude Carrière?
Oui, je crois, je cite Victor Hugo, vous savez, qui était partisan de l'Europe unie, et qui disait qu'un jour une guerre entre Paris et Berlin serait aussi inconcevable qu'une guerre entre Amiens et Rouen. Or, une guerre entre Damas et Alep a eu lieu dans le même pays, et les deux villes ne sont pas si éloignées que ça l'une de l'autre. Donc, on l'a vu. Je crois aussi que la guerre en Syrie, enfin, c'est ce qu'il me semble, nous l'acceptons et nous ne protestons pas, comme vous le posiez la question, parce que nous y avons mis le masque de Daesh. C'est-à-dire que nous ne nous battons pas contre les Syriens, mais contre une image d'un terrorisme aveugle qui existe, qui intéresse quelques milliers certainement de candidats à la mort donnée et reçue en même temps. c'est le crime et le châtiment en même temps, l'attentat suicide. Et je crois que cette image de Daesh nous permet de tout avaler, de tout faire accepter. Vous voyez que nous ne faisons pas la guerre à telle ou telle partie, mais nous luttons contre le terrorisme. C'était une phrase de George Bush après les attentats, le fils, après les attentats du 11 septembre, déclarer la guerre au terrorisme. Ce qui n'a aucun sens. Le terrorisme, il est aussi bien en nous qu'ailleurs.
Donc pour notre propre paix et notre propre sécurité, nous acceptons que la paix ne soit pas respectée.
Et nous avons un prétexte, qui est Daesh. Oui.
Vous êtes tous les deux historiens ou de formation historienne. Les récits de la guerre sont toujours des récits, même si parfois il peut y avoir de l'emphase. Alors peut-être toujours faux, en tout cas des récits de dévastation, des récits de souffrance. Comment se fait-il qu'avec cette si longue histoire qui jalonne celle de l'humanité, qui sont des histoires de conflits, l'histoire ne serve pas de leçon pour ne plus reproduire ces épisodes de guerre, Jean-Claude Carrière?
Moi, j'ai une réponse à ça, c'est parce que l'histoire n'existe pas. Il n'y a pas un seul livre d'histoire qui dise la vérité. Les livres d'histoire sont toujours écrits à l'intérieur d'un système nationaliste ou régionaliste qui raconte que la France a fait ceci mais n'a pas fait cela.
Donc c'est l'histoire des vainqueurs, enfin de l'histoire d'un certain point de vue.
Donner un exemple, on apprend aux enfants chinois aujourd'hui à l'école que le Tibet a toujours fait partie de la Chine. Je prends à dessein un exemple lointain, mais on pourrait en prendre très près. Or, le Tibet a été pendant très longtemps un royaume puissant qui a conquis la Chine, qui a occupé Pékin. Ça, c'est totalement zappé. Et il y a des quantités de choses comme ça. On a essayé de faire un manuel d'histoire franco-allemand, auquel à un moment donné j'ai participé, uniquement pour le XXe siècle. On n'y est pas arrivé. Parce que des deux côtés, la bataille de la Marne est une victoire. Alors comment vous conciliez ces deux? L'histoire n'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est ce qu'on raconte qu'elle a été. Et on la raconte toujours d'un point de vue nationaliste.
Est-ce que l'historien que vous êtes, David Van Riebroek, est d'accord avec cette affirmation-là, selon laquelle l'histoire n'existe pas, qu'en tout cas l'histoire ne peut pas nous servir à avancer vers la paix?
Mais le problème, c'est qu'en français, vous écrivez toujours le mot histoire avec une grande H. Et je pense que tous les problèmes...
On aime bien les majuscules, en général.
H majuscule. Non, pas moi quand je raconte des histoires.
Voilà. Moi, j'aime beaucoup les histoires au pluriel. Mais en France, en français, le mot histoire en pluriel, c'est les salades. Ça m'étonne toujours.
Oui, avec une dignité.
Et je trouve que j'ai écrit un livre sur le Congo qui a voulu raconter les histoires multiples d'un pays. Regardez de plusieurs points de vue. Pour l'instant, je travaille sur un livre sur l'Indonésie. Et je pense...
J'ai même réussi à raconter cette histoire du point de vue de témoignages directs de gens dont on imaginait qu'ils étaient quand même déjà morts depuis un certain temps.
Ah, mais là, j'ai eu beaucoup de chance en trouvant des témoins extrêmement âgés. Ça, c'est une question de pure chance pendant ces recherches. Mais je pense que l'histoire, effectivement, la version monolithique de l'histoire, j'ai des problèmes avec. Moi, je cherche à raconter l'histoire à travers des histoires parce que je trouve que ça rend justice à la complexité. Et en fait, il y a vraiment un parallèle avec le travail pour la paix. Là aussi, il s'agit d'écouter la multitude de voix, non seulement dans une société, mais aussi à l'intérieur d'une seule personne. Chaque personne est un village corse qui vit des conflits. Et donc, il y a une question d'écouter la multitude de voix à l'intérieur de soi. Et je pense que l'éducation à la paix peut aider les gens à écouter les plusieurs personnalités qu'ils sont.
Alors peut-être que si l'histoire ne nous enseigne rien, ou en tout cas pas suffisamment de choses, on peut trouver davantage d'enseignements dans la préhistoire. Cette fois, je voudrais vous faire écouter un extrait d'une émission que nous avions consacrée il y a 2-3 ans, la question de la violence, et à laquelle nous avions invité une préhistorienne, Marilène Patou-Matisse, et qui voyait en tout cas dans un certain nombre de recherches qui ont pu être faites, la preuve que si l'homme est violent, il l'est plutôt devenu, et qu'à l'origine, il y a plutôt les signes d'une forme d'empathie qui existait dans les groupes humains.
Quand vous trouvez un squelette d'un homme qu'on évalue être mort à 50 ans, qui présente l'amputation d'un bras, mais qui n'est pas une amputation médicale, mais qui est vraiment de naissance, c'est-à-dire qu'à la naissance, ce bébé avait un bras en moins, donc c'est dans la grotte de Shanidar en Irak, vers 45 000 ans, et là, on l'a pas tué. Alors que pour un clan, il faut bien vous imaginer que c'est des sociétés qui vivent en petits groupes de 30 à 50 individus, que chaque individu fait sa part de travail pour la subsistance quotidienne. Et ben, ce bébé, on l'a pas tué, on l'a gardé. Et donc, il a été pris en charge par l'ensemble du groupe. Et lui-même, d'ailleurs, c'est intéressant, il a participé activement à la vie du groupe puisqu'il a travaillé pour une seconde main, ça a été ses incisives. Il a travaillé les peaux. Donc, vous voyez, il y avait ça. Mais je crois que ce qu'il faut voir, c'est qu'aussi, c'est le système. Ce sont des chasseurs-cueilleurs, prédateurs dans le sens où ils prélèvent dans la nature, et donc qui sont dans ce monde naturel, et qui ont, si vous voulez, cette nécessité de vivre comme ça. C'est-à-dire que leur mode de vie, il est conduit à l'empathie. On ne serait pas là, et à l'altruisme. Parce qu'on ne peut pas toujours guerroyer, on ne peut pas mener à l'extinction son clan en étant toujours en train de guerroyer, alors qu'on a besoin des autres pour se reproduire.
Le témoignage de la préhistorienne Marilène Patoumatis. Donc, vous connaissez les travaux, manifestement, Jean-Claude
oui,
Carrière.
Oui, en plus, elle dit aussi que les traces de coups sur les os sont plutôt accidentelles, plutôt que des traces de coups frappés, comme s'il n'y avait pas eu, à cette époque, de nomadisme, disons, ou de vie de chasseur-collecteur, qu'il n'y avait pas eu de guerre entre peuples. Les peuples n'existant pas encore et n'ayant pas délimité des territoires. Et ce qu'elle dit, et qui est très très intéressant, il faut recommander son livre, c'est aussi que ça va avec Rousseau. Rousseau qui a dit, le premier qui a enclos un terrain en disant « ceci est à moi », voilà, il a tout déclenché parce que la convoitise des autres, on peut très très bien comprendre que moi, pauvre, je veux m'approprier le terrain de celui qui est plus riche que moi, voir son butin, son or, voir ses femmes, comme les Romains l'ont fait avec les Sabines. Moi, c'était prendre le bien de l'autre. Ça, c'est tout à fait concevable.
Et ça voudrait dire quoi? Qu'il faudrait revenir presque à une forme d'état naturel de
non,
ce qu'est
non, ce que
l'homme
non,
et,
non,
que, et qu'on peut constater peut-être d'ailleurs dans l'enfance. Dans
non,
je crois que c'est vous, David Van Riebroek, qui en parlait de la petite enfance, qui est un moment justement où il y a une forte dose d'empathie. Et c'est oui. Quoi? Alors c'est la société qui corrompt l'être humain?
Ben on voit on a deux cerveaux. Moi je suis préhistorien de formation aussi curieusement et on voit qu'on a le cerveau primitif et on a la partie reptilienne et puis on a le cortex néofrontal, le néocortex frontal. Et donc là effectivement on voit que l'empathie et tout ça réside dans la partie du cerveau qui est plus récent. Et donc je pense que tout le monde a tendance vers la paix et vers la guerre. Et il faut effectivement, je pense pas qu'il faut revenir à un état de vivre en tant que chasseur-cueilleur pour retrouver un peu de paix quand même.
Mais David, ce qu'on oublie aussi toujours, c'est de dire quand même qu'ils étaient très peu nombreux.
Ils étaient très peu nombreux.
Des problèmes de démographie aujourd'hui nous accablent oui. Partout dans le monde. Et comment allons-nous vivre quand nous serons quelques milliards de plus? C'est une question que comment vivre en paix? Ça sera pratiquement impossible.
On est de trop, mais c'est la minorité en Occident qui consomme le plus.
Ce que nous expliquait Marilène Patoumatis, et c'est presque le terme de cette émission, c'est qu'il y avait aussi une nécessité à l'époque, sans doute, pour ces groupes sociaux réduits, de coopérer. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des menaces sur le climat, donc sur la planète, donc sur l'espèce humaine. Est-ce qu'on peut y voir peut-être là une forme d'optimisme, c'est-à-dire pour sauver ce qui nous fait tenir ensemble, c'est-à-dire la planète sur laquelle nous vivons, il va y avoir forcément la nécessité de pousser la coopération et que ça sera peut-être le meilleur remède au conflit, à la guerre, David Van Riebroek.
Complètement, je pense que de nos jours, nous sommes condamnés à l'interdépendance. Plus que l'indépendance et l'interdépendance qui règne maintenant. C'est-à-dire, moi je peux pas utiliser un bic ou encore moins un ordinateur ou une voiture, n'importe quoi, sans qu'il y ait des milliers de gens qui ont participé. Et je pense que la volonté de paix est assez mondiale, mais il y a toujours des réflexes et des algorithmes politiques et militaires qui s'imposent, malheureusement.
Jean-Claude Carrière.
Oui, nous souhaitons tous vivre en paix. C'est de plus en plus difficile, plus nous sommes nombreux. C'est-à-dire que dans la préhistoire, telle que nous pouvons l'imaginer, la nécessité de coopérer était évidente. Et non seulement la nécessité de coopérer, mais de préserver la vie de ses enfants. Sinon, le groupe risquait de disparaître d'un seul coup, à l'occasion d'une épidémie. Donc tout ça reste profondément enfoui en nous, mais a été remplacé par une volonté d'expansion, de conquête, de suprématie, etc., de recherche de ce qu'on appelle une identité supérieure à une autre, que le mot identité n'a absolument strictement aucun sens, etc. Donc, c'est vrai que nous sommes nos propres prédateurs et, en ce qui concerne la paix, nos propres ennemis.
Et peut-être que la lecture de vos deux ouvrages contribuera à désenfouir ce que nous avons bien caché jusqu'à présent. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette discussion extrêmement pacifique. Jean-Claude Carrière, je rappelle donc La Paix, c'est publié chez Odile Jacob. La Paix, ça s'apprend. David Van Reybrouck, Thomas D'Azembourg.
D'Azembourg, oui.
D'Azembourg, pardonnez-moi pour la prononciation. C'est publié chez Actes Sud. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Céline Leclerc, Cyril Baer, Isolde Sicard. Une émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Alexandre Dong. Dans un instant, vous retrouverez Ping Pong avec, vous le savez, cette semaine, Géraldine Mosnassawa et Xavier Delaporte. Mais pour l'heure, c'est le rappel des titres.